bonjour à tous. On va prier. Dieu Père, on veut te remercier pour ce temps ce matin et puis ce beau temps que tu fais arriver maintenant. On te remercie pour cette occasion que tu nous donnes d'étudier et d'écouter ta parole. Ouvre nos cœurs, comme l'a dit Paul, et que nous puissions recevoir ce qui vient de toi. Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un choix important. Alors, il y a toutes sortes de choix, on sait, dans la vie. Il y a des choix qui sont anodins. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Tu tires ou tu pointes? C'est un choix que vous vous êtes peut-être posé cet été. Et certes, donc, ce sont les petits choix qui font le caractère à force. Hein. Donc, ils ne sont pas à négliger complètement. Mais il y a quand même des choix qui sont plus importants, qui engagent. Un choix comme... quelle orientation je vais prendre pour ces 3 prochaines années, dans mes études, dans mon boulot? Est-ce que je vais souscrire à un prêt pour un achat? Là, ça nous engage sur peut-être, allez, 15 à 25 ans. Est-ce que, quand quelqu'un vient vous poser la question, veux-tu m'épouser? Ça, c'est un choix qui engage jusqu'à 60, 70 ans, hein, c'est avec la grâce de Dieu. Des choix qui sont plus lourds de conséquences. Et au-delà de ces petites durées qui sont finalement définies, il y a un choix qui engage pour toute l'éternité. Et la question à laquelle qui se pose pour répondre pour ce choix, c'est la question de tout l'évangile de Marc, et en particulier des 9 premiers chapitres. Vous le savez. Pour certains, je suis fan de cet évangile de Marc. Alors, cette question, elle est posée par Jésus-même en Marc 8, verset 29. Il pose la question à ses disciples, « D'après vous, qui suis-je ?» Donc, on va étudier le texte aujourd'hui de Marc 3, verset 20 à 35. Et ce texte, il nous montre les trois manières les plus pertinentes de répondre à cette question. L'action, le contexte de ce passage, c'est pendant le ministère de Jésus en Galilée, donc c'est le début de son ministère, il est dans la région où il a grandi. Cette scène est racontée juste après le moment où Jésus va désigner ses 12 disciples, ses 12 apôtres, qui sont là un peu pour établir un nouveau peuple. Depuis le début de l'évangile, on voit Jésus qui fait différentes choses dans différents endroits. Alors, il va au bord du lac de Galilée, dans des synagogues, dans une maison, probablement la maison de Pierre, à Capernaum. Et il fait deux choses. Il enseigne, d'une part, avec autorité. Et il dit que c'est sa priorité, d'ailleurs, il est venu pour ça. Et ensuite, il fait des miracles. Il guérit des malades et puis il chasse des démons. Il y a vraiment de nombreux miracles qui sont détaillés dans Marc, et là même depuis le début jusqu'au chapitre 3, il y en a 5 qui sont détaillés, et puis il y en a plein d'autres encore qui sont évoqués. Alors, du coup, de nombreuses personnes cherchent à voir Jésus. Ils viennent de partout, dans tout Israël, et même au-delà de quelques territoires païens, si bien que les autorités religieuses décident d'envoyer des théologiens, hein, pour venir éprouver l'enseignement de ce nouveau rabbin. Et c'est le moins qu'on puisse dire, son enseignement ne suscite pas une adhésion complète. Bien qu'il réponde aux aspirations de chacun, il y a des gens qui sont attirés par sa bonté, par ses enseignements. D'un côté, il ne rentre pas dans le moule qu'on veut lui mettre. Son enseignement paraît quelque part trop radical, il va trop loin. Alors, on va lire le texte. Je lis en version Summer. Jésus alla à la maison. Et de nouveau, la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet, il est devenu fou. Les spécialistes de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient, il est sous l'emprise de Belzébul. C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. Alors Jésus les appela et leur parla en parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan ? Un royaume déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se bat contre lui-même, s'il est en conflit avec lui-même, il ne peut plus subsister. C'en est fini de lui. En fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison. Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné, il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait « Il est sous l'emprise d'un esprit mauvais ». La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent ». Il répondit « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et promenant son regard sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. » Jusqu'ici notre lecture. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ce texte, il a une structure en sandwich, ou si vous voulez faire plus intellectuel, vous dites chiasme. C'est-à-dire qu'il y a une structure où on a plusieurs couches. Au tout début, on nous parle de la famille de Jésus, et à la fin, donc versets 20 et 21, et versets 31 et 35, c'est à nouveau la famille de Jésus. Et on a imbriqué à l'intérieur les questions que... Enfin, l'opinion des spécialistes de la loi. Et ça, c'est les versets 22 et 30. Et encore à l'intérieur, on a au centre, à la place d'honneur de cette structure, la réponse de Jésus. Dans les sociétés traditionnelles, où la communauté est très importante, il y a deux entités qui sont les plus éminentes. C'est d'une part la famille, et d'autre part les représentants de la tradition religieuse, très souvent. Et ici, on a les représentants les plus éminents de ces deux entités, qui sont là pour dire leur avis sur la question clé, qui est Jésus. Donc on va voir dans un premier temps, on prend le chiasme, hein, vraiment de l'extérieur vers l'intérieur. D'abord la question de l'opinion de la famille sur Jésus, ensuite celle des chefs religieux, puis on va tirer deux choses aussi ensuite du message de Jésus pour nous. Alors, le premier point, je l'ai intitulé « La folie de la famille ». Il faut voir que Jésus est tellement accaparé par la foule qu'il n'a plus de temps pour manger. C'est assez extrême. Mais on a un peu cette idée-là à un mariage où les époux, en général, il faut, au moment du cocktail, que quelqu'un leur apporte à manger parce qu'ils ne pourront pas s'approcher du buffet. Ils sont trop occupés. Et alors, pour une maman comme Marie, voir son petit qui n'a pas à manger, c'est inquiétant. C'est normal. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Enfin, ça va clairement au-delà de ça. Ils veulent l'emmener de force. Si on se fait le parcours de Jésus, il semble que Jésus, c'est pas explicité dans les Écritures, mais vous voyez qu'ici, on n'entend pas parler de Joseph. L'hypothèse, c'est que Joseph serait décédé. Et dans ce cas-là, Jésus a été un soutien de famille. Il était le fils aîné. Il s'occupait du rôle... Enfin, quelque part, il remplaçait financièrement son père. Lui, il était un modèle de sagesse, certainement humble, qui choisissait ses mots, qui ne se plaint pas. Et puis, soudainement, il quitte son travail, il se met à aller de village en village, enseigner, rentrer en conflit avec les autorités religieuses, nommer des apôtres qui doivent comme fonder un nouveau peuple, et de temps en temps avoir des phrases extraordinaires sur lesquelles on va revenir après. Il dort peu. Quelques versets plus tôt, on voit qu'il avait passé la nuit à prier avant de désigner ses disciples. Et puis là, il ne mange même plus. Alors, mais qu'a-t-il ? On est en droit de se poser la question. Est-ce qu'il a décompensé ? Est-ce qu'il s'est radicalisé ? On entend beaucoup parler de radicalisation des jeunes maintenant. Il avait 30 ans, hein, autour de 30 ans. Est-ce qu'il est devenu fou ? Il faut qu'on sorte de là, c'est ce qu'ils disent. Alors, les proches de Jésus ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas cru en lui, au début du moins. Ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient. Et certains d'entre nous connaissent cette situation, d'avoir des proches qui ne comprennent pas, qui nous prennent pour des extraterrestres parce que nous sommes chrétiens. C'est normal. Ils n'arrivent pas à expliquer votre comportement parce que ils ne suivent pas Jésus eux-mêmes et c'est arrivé à Jésus lui-même. Et dans sa grâce, Dieu permet que le peuple de Dieu qu'il a fondé sur les 12 apôtres deviennent une famille. Une famille spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'on va négliger sa famille charnelle. Mais dans cette communauté du peuple racheté, on peut retrouver des liens familiaux très forts. J'étais souvent émerveillé de voir que, avec des chrétiens que je connaissais depuis une heure, je vivais des choses, je partageais des choses qui étaient extrêmement riches, que parfois, on met des années, voire on n'arrive jamais à avoir ces discussions-là en famille ou avec des amis. Maintenant, la question se pose, qui est-ce qui fait partie de la famille de Jésus? Qui sont sa mère et ses frères, cette famille spirituelle? Jésus dit, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. Alors si vous faites la volonté de Dieu, c'est-à-dire si vous êtes là à écouter le Fils de Dieu, comme ces personnes qui étaient assises, vous obéissez à ses paroles parce que vous avez confiance en ce qu'il dit, alors on peut considérer que vous faites partie de la famille de Dieu. En tout cas, Jésus le fait. Et ce n'est pas parce que vous êtes né de parents chrétiens ou que vous avez grandi dans une communauté chrétienne que vous êtes automatiquement dans la famille de Dieu. Cet exemple des frères de Jésus en est un exemple vraiment flagrant, une illustration flagrante. On dit parfois « Dieu est un père et non pas un grand-père ». Vous avez peut-être déjà entendu ça. On dit ça pour souligner que la relation avec Dieu, elle est directe. Elle ne se fait pas par l'intermédiaire des parents. On va maintenant regarder l'opinion des scribes, donc ces spécialistes de la loi. Eux, ils ont leur propre version à la question « Qui est Jésus ?». Alors, ces théologiens qui étaient garants de l'orthodoxie, du bon enseignement, ils sont descendus de Jérusalem et ils vont juger ce qu'a fait Jésus. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout envie de considérer Jésus comme le Messie qui était promis dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? En fait, s'ils considèrent Jésus comme le Messie, ils vont devoir lui obéir. Ils vont devoir se soumettre. Et ça, ils ne veulent pas. Néanmoins, vu qu'ils sont théologiens, il faut qu'ils trouvent une explication. C'est dans leur rôle. Alors le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne veulent pas reconnaître Jésus comme étant le Messie. Le problème, c'est que Jésus, il fait des miracles. Il chasse les démons avec autorité. Ils en sont témoins. Ça, ils ne le nient pas. Ils l'ont vu. Pour nous, ça fait réfléchir. Cet homme fait taire les démons et les chasse avec une autorité qui semble divine. Alors, si on décide qu'il ne vient pas de Dieu, qui est-ce qui pourrait avoir autorité sur les démons? La réponse est simple, c'est Satan. Ah oui, l'ennemi suprême, le chef des démons. Dès le commencement, il sème le mensonge et la destruction, il est trompeur. Jésus doit être sous l'emprise de Belzébul. Belzébul, c'est le nom d'une divinité païenne qu'on a un peu associée soit à Satan, soit à une espèce de prince de démons. Cependant, Jésus pointe qu'il y a un problème avec leur explication. Elle est absurde, tout simplement. Pourquoi Satan se déclarait-il la guerre contre lui-même? Jésus a chassé déjà de nombreux démons depuis le début de son ministère, et ça n'a pas de sens que s'il faisait ça pour Satan, il détruise son propre règne. Il n'est pas raisonnable pour Satan de mettre en péril toute son œuvre. Jésus leur dit un peu, vous pensez vraiment avoir réglé la question de mon identité par une pirouette, comme ça? Il y a quelques années de ça, il y a presque 10 ans en fait, j'ai découvert l'apologétique. Alors c'est le thème, c'est le sujet où on va essayer de réfléchir sur les arguments et les contre-arguments pour la vision du monde chrétienne. Hein, de dire, ok, en quoi c'est raisonnable? Et moi, j'ai été vraiment passionné par ce sujet. Vraiment, j'ai plongé dedans, d'ailleurs on va en discuter cette semaine. Mais plus ça va, plus je réalise qu'en fait, on n'a pas vraiment de raison. Les gens n'ont pas de raison de ne pas croire en Dieu la plupart du temps. On se donne des raisons. Si on creuse un peu, on se rend très vite compte qu'elles sont absurdes. Enfin, plus ou moins vite. Des fois, il faut creuser. C'est des obstacles artificiels et fragiles, c'est des « laisse-moi tranquille », parce que la vraie raison, elle est morale. La vraie raison, elle est toujours morale. Ça peut être varié. J'ai noté quelques exemples. Ça peut être la révolte, comme les pharisiens, « je ne veux pas me soumettre ». Ça peut être l'orgueil. Bon d'accord, je suis pas parfait, mais je suis pas si mauvais que ça, et puis il y a l'autre, c'est 3 fois pire, il m'a fait du mal, je veux pas reconnaître que je suis pécheur. L'amertume, j'en veux à Dieu parce que je souffre. La peur, je veux pas changer de style de vie, qu'est-ce qui peut se passer si je deviens chrétien? Ou même l'amour du péché. Et toutes des questions qui sont plus morales que intellectuelles. Et Jésus, il lève le voile sur les vraies motivations des scribes ici. Dieu n'a pas de problème avec la raison. C'est lui l'intelligence suprême. Et d'ailleurs, Jésus, il a une répartie exceptionnelle. Il a une intelligence qui, on ne s'exclame pas souvent assez, à mon avis, de la sagesse de Jésus dans ses réponses. Ça prouve d'ailleurs qu'il a une santé mentale irréprochable, hein, pour répondre un peu à la famille déjà. Pour aller plus loin, en lisant l'évangile, on arrive difficilement à la conclusion que Jésus était fou. Ni même qu'il était d'une méchanceté démoniaque, comme le supposent les scribes. Je vous propose de faire l'expérience vous-même. Vous lisez l'évangile de Marc, c'est 16 chapitres. Si vous êtes un lecteur rapide, vous lisez ça en une demi-heure. Un peu moins rapide, vous lisez ça en une heure. Et quand on lit ces évangiles, comment un homme qui répond avec autant de sagesse peut-il être un aliéné? Comment quelqu'un qui a une si grande humilité, qui se met au service, qui va même spontanément vers les exclus, qui malgré sa grande popularité, va laver les pieds sales de ses disciples? Comment cet homme serait foncièrement, finalement, possédé, menteur, pas de santé, comme s'il était possédé par le diable? Pourquoi ils arrivent à de telles conclusions? En fait, Jésus ne laisse pas tellement d'autres choix. Il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Beaucoup aimeraient voir quand Jésus un prophète, un homme spirituel, un leader religieux. Le problème, c'est que Jésus n'a jamais vu cette option comme étant possible. Il ne donne pas cette possibilité. Jésus historique, il vient de dire qu'il ne chasse pas les démons par Belzébul, ce qui serait absurde. La vraie conclusion à laquelle devaient parvenir les scribes, c'est que lui-même, il vient pour dépouiller Satan, parce qu'il est plus fort que Satan. Qui est plus fort que Satan et contre lui? Qui est-il en fait? Il prétend être Dieu. Dieu en personne. C'est pas la première fois qu'il fait de telles déclarations. Il l'avait déjà fait dans le fait qu'il parlait de pardonner les péchés. Et tout au long de sa vie, il a fait ces déclarations qui, franchement, sont exubérantes. J'ai noté, par exemple, un passage dans Jean, où il dit à une foule un jour, Jean 8, versets 56 à 59, « Abraham m'a vu et en a été transporté de joie. » Alors, Abraham, c'est le premier homme envoyé par Dieu, 1500 ans avant qu'il fasse sa déclaration. Les gens réagissent. « Quoi lui dire-t-il alors? Tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham ?»« Vraiment, je vous l'assure, » le répondit Jésus, « avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » À ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Il ne s'agit pas là d'un vague concept un peu oriental. On a tous un peu Dieu en nous. C'était même pas possible pour les juifs de comprendre ça, parce qu'ils étaient juifs, justement. Ils avaient l'héritage de « il n'y a un seul Dieu ». En fait, il dit « je suis le seul ». Je suis bien le Dieu, l'unique. Et ces deux auditeurs l'ont bien compris. Ils n'ont pas hésité. Ils ont à peine dit ça qu'ils ont commencé à ramasser des pierres. En fait, il va même plus loin, il dit même à plusieurs reprises que c'est de lui que dépend la question si on a la vie éternelle ou pas. C'est le sujet de notre texte, mais il y a un autre passage qui le dit aussi explicitement. Jean 3, verset 38, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est bien le point. Jésus est bien la personne sur laquelle, d'après ses dires, se décide l'éternité, suivant qu'on est avec Dieu ou pas avec Dieu, à la vie ou à la mort. Et là, c'est compliqué de dire qu'il est juste là pour nous donner un exemple. Parce que si on faisait tous comme Jésus, si on se prenait tous comme Dieu, pour le seul Dieu unique, ça serait très compliqué. Et en fait, c'est un peu ça, un monde dans le péché. Tout le monde se prend pour Dieu. Jésus a été condamné à mort par crucifixion pour avoir dit « Je suis ce Fils de Dieu ». Il n'a pas reculé. Est-ce qu'on mourrait pour quelque chose de faux? Ou surtout quelque chose qu'on sait être faux? Ce serait étonnant. Il y a C.S. Lewis que j'aime bien citer, qui le résume ainsi. Un homme qui ne serait qu'un homme et qui tiendrait les propos que tenait Jésus ne serait pas un grand professeur de morale. Ce serait soit un fou, tel l'individu affirmant qu'il est un œuf poché, soit le démon des enfers. Il vous faut choisir ou bien cet homme était et reste le Fils de Dieu, ou bien il ne fut rien d'autre qu'un aliéné, ou pire encore. Alors je ne sais pas ce que vous concluez maintenant, mais si vous considérez une seule seconde que Jésus dit la vérité, que c'est vraiment lui qui a ligoté le malin, ligoter Satan. Quelle espérance! C'est lui, l'homme fort, qui peut dépouiller cette maison dans laquelle nous étions enfermés, dans cette spirale du mal. Quelqu'un est venu pour vaincre le mal. Dieu est venu en personne. Dieu est venu en Jésus-Christ pour nous réconcilier avec Dieu. C'est la phrase centrale de ce texte. Jésus la souligne en disant « Amen, je vous le dis, hein, vraiment je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. » Tout péché sera pardonné. Ça ne signifie pas qu'il y a un pardon automatique, qu'on oublie tout, il s'est rien passé. Ça signifie plutôt que le pardon est rendu disponible par Jésus-Christ. La réconciliation avec Dieu est ouverte. Il n'y a pas de limite, en fait. Ça, je pense qu'on a du mal à le saisir. Il n'y a pas de péché véniel ou mortel. En fait, tout péché est mortel. Mais Dieu rend la vie en Jésus-Christ. Il n'y a pas de péché trop grand. Il ne faut pas croire que nos péchés sont plus grands que le sacrifice de Jésus sur la croix. Ce serait encore de l'orgueil. Le Dieu éternel s'est fait homme, a mené une vie de parfaite pureté, s'est donné en sacrifice pour tous les péchés. Et on répète très souvent ce verset, alors je me l'ai personnalisé, Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé Michaël qu'il a donné son fils unique afin que Michaël croit en lui. Ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Que chacun puisse s'approprier ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le dernier point de ce texte, pour lequel peut-être vous attendez depuis tout à l'heure, est le blasphème contre le Saint-Esprit. Hein, voilà une question qui a beaucoup tourmenté de nombreuses personnes, en fait. Ce verset, c'est un verset difficile, mais il ne faut pas croire que ce verset vienne comme un cheveu sur la soupe dans l'enseignement de Jésus. Il n'y a certes qu'un seul passage parallèle de Matthieu où il reprend exactement les mêmes termes, mais Jésus parle beaucoup de jugement. Dans la Bible, c'est lui qui parle du feu de la géhenne. C'est lui qui introduit l'expression « les pleurs et les grincements de dents », même si c'est des expressions qui ne nous font pas plaisir. Et pour cause, on n'est pas très à l'aise avec l'idée de jugement. Alors d'une part parce que, on l'a vu, c'est Paul qui nous l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes pécheurs, Dieu connaît nos pensées. Et dans cette situation-là, on n'a pas forcément envie de voir un jugement tout de suite, une justice. Et peut-être que nous avons aussi été victimes de jugements injustes. Et ça nous est resté en travers de la gorge. On a fait le raccourci que jugement égale oppression. C'est pas le cas. Il y a des jugements justes, en particulier celui de Dieu. Notre insensibilité à la notion de justice, elle peut être aussi liée un peu à notre situation de confort. Si on est suffisamment confortable, on peut se dire que finalement le mal ne fait pas si mal. C'est pas si grave. C'est le jugement qui commence à être plus dérangeant. Et on est indulgent, d'une part parce que nous sommes pas très au clair sur nous-mêmes, et aussi pas très au clair sur la sainteté de Dieu. Si on avait cette réaction que Jérémie peut avoir quand il voit la sainteté de Dieu, voilà, je suis impur, mes lèvres sont impures, disent les prophètes quand ils voient Dieu. On manque de réaliser à quel point le péché est hideux, et on craint pas Dieu. Si on était pur comme Dieu est pur, on aurait la même aversion pour la moindre tâche, en fait. C'est pour cela que, d'ailleurs, que le pardon de Jésus, que Jésus nous offre, est si étonnant, si grand. Mais donc, on a bien vu ici un avertissement solennel. Ce n'est pas parce que vous portez le nom de chrétien que vous êtes sauvé, certes. Et même, d'ailleurs, dans ce passage, on voit que les personnes qui sont les plus susceptibles de commettre le péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit, ne sont pas des personnes étrangères. C'est des personnes qui sont dedans, en fait, des théologiens là, qui sont plantés par Jésus. C'est un peu comme les démons, ils savent beaucoup de choses. Mais, hein, on connaît ce verset qu'on a répété souvent en juin, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu ? Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Le fait d'avoir toutes ces connaissances et de rester opposé à Dieu, d'associer les œuvres de Jésus-Christ à celles de Satan. Marc nous le répète, il le dit deux fois, Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait « il est sous l'emprise d'un esprit mauvais ». Ce n'est pas « il dire », C'était, ils disaient, il y avait quelque chose de constant. C'était leur jugement sur Jésus. Alors qu'ils avaient entendu son enseignement qui était irréprochable. Ils l'avaient vu faire du bien. Ils l'avaient vu délivrer des démoniaques. Et en voyant ça, ils disent, c'est l'œuvre de Satan. Ils n'avaient rien à lui reprocher. On pourrait se poser, qui est vraiment sous l'emprise d'un esprit mauvais dans cette histoire ? Donc le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas un péché par ignorance. On voit d'ailleurs que c'est pas les péchés qu'on peut commettre par accident. Ils disent, ah zut, ça m'est peut-être arrivé hier sur un malentendu, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce texte. Ça peut pas arriver par accident, ni par ignorance. C'est des gens qui ont vu l'œuvre de Dieu et qui se sont opposés à sa grâce. Paul, il était allé très loin dans des atrocités, il dit lui-même, j'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Alors la question c'est, pourquoi on appelle ça blasphème contre le Saint-Esprit ? On a l'impression qu'il suffirait de dire quelques mots injurieux contre le Saint-Esprit et on a blasphémé contre le Saint-Esprit. Pourquoi pas blasphème contre le Père ou le Fils, par exemple. Et je crois que ça va vraiment dans le fil de cette histoire d'une révélation précise qui a été donnée et un rejet qui a été donné. Parce que la révélation la plus logique, la plus naturelle, c'est la révélation de Dieu comme Père. Hein ? Le Dieu qui se révèle dans la création, on voit dans Romains 1, ils sont tous inexcusables, car ayant connu Dieu, on connaît Dieu dans la création, c'est naturel. La révélation en Jésus-Christ, c'est un fait historique qui est arrivé par la suite. Dieu, après avoir parlé de différentes manières par les prophètes, s'est révélé dans le Fils. Alors ça, c'est une révélation plus précise. Et aussi, je pense, indéniable. Il y a des faits historiques qui sont là et quelqu'un qui a clamé des choses. Mais plus loin encore, il y a l'œuvre de l'Esprit qui agit. Quand on voit Jésus de ses propres yeux agir avec la puissance de l'Esprit-Saint, faire du bien. Quand on voit Jésus, peut-être même dans les vies des chrétiens, faire des transformations. Quand on a vécu des années et des années, est-ce qu'on n'a pas témoigné de la puissance du Saint-Esprit ? Est-ce que ce n'est pas là qu'on se met en risque de blasphémer contre le Père, contre le Saint-Esprit ? Mais si vous craignez d'avoir commis ce péché, à vrai dire, c'est le signe que vous n'avez pas commis ce péché. On voit bien que les gens qui sont enfermés dans cet endurcissement, je reprends le terme qu'on va voir après, cet endurcissement de cœur, on ne se dit pas « ouais, ça me dérange un peu, mais je tiens ferme ». Non, non, je ne veux pas savoir, je ne veux plus en entendre parler, c'est pas Jésus le Fils de Dieu. Dans mon cœur, au fond de mon cœur, je refuse la seigneurie de Jésus sur moi. Et quelque part, si je dis ces mots, ce n'est pas pour m'adresser à ces personnes qui se sont endurcies. J'espère, par la grâce de Dieu, qu'il n'y en a pas dans cette salle. Je n'en sais rien. Dieu connaît les cœurs. Et si je m'adresse à cette personne, c'est trop tard. Il est endurci pour de bon. Mais peut-être c'est un avertissement pour nous qui peut-être commençons à nous endurcir. Connaissons beaucoup de choses. Avons entendu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, peut-être avons fait une petite adhésion superficielle extérieure, et puis à un moment, le message, il glisse. Je sais bien ça, je sais bien tout ça, mais j'ai ma vie, j'ai mon orgueil. C'est l'image du Pharaon dans Exode. L'image du Pharaon, elle est terrible. Il s'endurcit une fois, Moïse et Aaron vont le voir, il s'endurcit une fois, il endurcit son cœur. Le Nil se transforme en sang. Il ne prend même pas cela à cœur. Il réendurcit son cœur. Les grenouilles couvrent le pays. Il endurcit son cœur encore une fois. Le pays est envahi de moustiques. Une quatrième fois encore, son cœur s'endurcit et il y a des mouches venimeuses. Cinquième fois, il rend encore son cœur lourd. Les troupeaux sont décimés. Sixième fois, il rend son cœur lourd et tout le monde est couvert d'ulcères, les hommes comme les bêtes. La septième fois, c'est pas le Pharaon qui rend son cœur lourd. C'est l'Éternel qui endurcit son cœur. Et là, c'est fini. Il n'aura plus l'occasion de se repentir. Quatre fléaux s'abattront encore sur lui et ses chars finiront dans la mer. On ne peut pas rester éternellement sur la sellette. Ce n'est pas suffisant d'être dans une famille chrétienne ou de s'y connaître un peu. On peut avoir même toutes les apparences de la piété et ne pas déposer les armes devant Jésus. Si on ne se soumet pas à Jésus, tout cela, ça sera d'aucun secours. je pense qu'il faut se méfier de trop repousser certaines décisions. Ça paraît anodin. Non, non, c'est demain ou après-demain, ou quand je serai vieux. Mais à chaque fois, le cœur s'endurcit. Et c'est une manière de mépriser cette main qui est tendue. Alors, je vais terminer par une petite lecture d'un passage d'Hébreux. Enfin, une relativement plus longue lecture du passage d'Hébreux, pour vous dire. Où ce sujet de l'endurcissement est repris. C'est un sujet qui revient plusieurs fois dans Hébreux. J'étais étonné de le voir autant. Peut-être que je sautais un peu vite avant. Dans le chapitre 3, à partir du verset 7, puis on va lire quelques versets un peu jusqu'au chapitre 4. Donc, voilà, le texte nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés et qu'ils ont dans le désert voulu me forcer la main. Ce jour-là, vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là et j'ai dit « Leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des voies que je leur prescris. » C'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. En effet, nous sommes associés à Christ, si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début, et cela aussi longtemps qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » Un peu plus loin au chapitre 4, verset 7, « Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui. » Lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées, plus tard par rapport à l'exil dans le désert, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » Je termine au verset 11 à 13. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je vais prier. Père éternel de gloire, merci pour l'honneur incroyable que nous as fait en t'adressant à nous par ta parole. Merci pour la délivrance que tu nous offres en Jésus-Christ. Nous n'avons pas de mots assez grands pour l'exprimer. Gloire soit au Seigneur Jésus-Christ pour sa victoire sur Satan. Que chacun, ce matin, aujourd'hui, puisse se positionner sur la véritable identité de Jésus de Nazareth. Que ses paroles, les paroles de Jésus, résonnent dans tous les cœurs. Seigneur Tout-Puissant, chasse de nos cœurs les fausses alternatives méprisantes et absurdes et révèle la gloire de ton Fils. Qu'aujourd'hui, nos cœurs et nos vies s'inclinent devant lui. Que ta parole travaille les cœurs de chacun, par l'action de ton esprit. Et je t'en prie, Seigneur, donne aussi l'assurance à ceux qui t'appartiennent, l'assurance de leur salut. Et n'abandonne pas non plus ceux qui commencent à s'endurcir. Ne les abandonne pas à leur endurcissement. Permets que chacun puisse se confier en toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ qui a dépouillé Satan. Amen.